De la littérature, bordel, dans l'actualité des idées aujourd'hui, la mécanique du désir, masculin comme féminin, les rapports hommes-femmes à huis clos et les motivations d'une prostitution choisie, celle d'une auteure, Emma Becker, lauréate du prix du roman des étudiants France Culture Télérama, prix qui lui a été décerné en décembre dernier et qu'elle recevra demain à Paris. À 30 ans, elle raconte ses souvenirs de maison close dans un troisième roman intitulé La Maison, publié chez Flammarion en août dernier. Elle y a passé plus de 2 ans à Berlin, où elle vit encore aujourd'hui, en Allemagne, où il y aurait 3500 maisons closes, alors qu'en France, elles sont aujourd'hui abolies, interdites, depuis la guerre. D'abord au Manège, c'était le nom de cette première maison dans laquelle elle a été, puis à la maison, tout court, qui donne à ce livre-roman son titre. Elle y raconte le quotidien de ce lieu, ses travailleuses, son fonctionnement, et aussi la relation aux clients. Emma Becker, bonjour.
Bonjour.
À mes côtés, l'historienne de la littérature Laure Murat, professeure à l'UCLA, auteure d'une révolution sexuelle, réflexion sur l'après Weinstein chez Stock, sortie en septembre 2018. Pour discuter avec vous, Laure Murat, bonjour.
Bonjour.
Cette expérience, Emma Becker, pourquoi avoir eu envie d'en faire un livre, c'est-à-dire à la fois de la vivre pour l'écrire, de la rendre publique et chemin faisant de la formaliser autrement?
C'était tout de suite évident que j'avais envie d'en faire un livre parce que j'écris là-dessus, j'écris sur la mécanique du désir, j'écris sur les femmes. Enfin, j'ai longtemps pensé écrire sur les hommes, mais en vérité, je pense que c'est vraiment sur les femmes et sur moi que j'écris. Et quand ce projet m'est venu, je pourrais pas vous dire si j'avais plus envie de travailler ou d'écrire. Les deux étaient vraiment intrinsèquement liés l'un à l'autre. Il me semblait que le métier et sa part de fiction se prêtaient parfaitement au cadre du roman.
Laure Murat, vous avez lu le livre d'Emma Becker. C'est un livre d'écrivain que vous avez lu. Vous avez vu ou lu l'écrivain partout entre les lignes.
J'ai lu un récit extrêmement fluide, et la fluidité est une grande qualité. J'ai lu aussi une expérience, et ça c'est toujours intéressant. À un moment donné, vous dites que finalement, il n'y a pas tant de différence entre le journalisme et la littérature. Je ne serais pas forcément de cet avis-là. Mais il y a quelque chose, en tout cas dans ce que vous avez essayé de faire, qui rend à la fois le reportage plus littéraire, disons, et la littérature plus informée ou informative que ce qu'un roman habituel ne l'est. Donc de ce point de vue-là, c'était intéressant et j'ai appris beaucoup.
Vous l'écrivez, c'est là, Emma Becker, que je réalise à quel point la frontière entre le journalisme et la littérature est finalement ténue, que je ne suis pas du tout fait pour être journaliste, au fond. Aussi égocentrique que la profession puisse être, elle n'arrive pas à la cheville qui boursoufle un écrivain comme moi, incapable d'écrire sur qui que ce soit d'autre que lui-même. La posture d'écrivain, elle est toujours une posture narcissique pour vous ?
Bah, pour moi, oui, dans un sens, j'imagine, mais je crois qu'en parlant de soi et qu'à travers ce narcissisme-là, on peut aussi accéder à une forme, peut-être pas d'universalité, mais enfin, quand j'écris, même si j'écris sur moi, c'est toujours dans l'espoir que quelqu'un se reconnaisse, même une seule personne, dans ce que j'écris. Donc il y a quand même une notion aussi de partage et de recherche de proximité, mais je crois qu'effectivement, j'écris jamais aussi bien quand j'écris sur moi. Enfin, c'est mon cas personnel, mais...
Et tout au long du livre, vous exposez vos motivations. Pourquoi ce rappel? C'était pour vous-même, pour vous rappeler dans cette situation-là que vous étiez aussi là comme écrivain, avant d'être là comme femme, avant d'être là comme prostituée.
Bah, c'est une distance que j'ai eu besoin, dont j'ai eu besoin quand je travaillais au manège, parce que la maison, enfin cette maison-là n'était pas du tout faite pour moi, et qu'effectivement le fait d'être écrivain ou journaliste entre guillemets me donnait une distance. C'est-à-dire que je pouvais me protéger en me disant mais ça c'est pas ton métier. Ton métier c'est d'être écrivain. Après, quand je suis arrivée à la maison, cette distance est devenue autre chose. C'était la possibilité d'un œil qui englobait tout ce qui se passait dans la maison, mais ça n'était pas une recherche de distance entre moi et les autres, entre moi et mes collègues. C'était tout simplement la narration un peu omnisciente de l'écrivain, quoi. Je crois que je réfléchis comme ça d'une manière générale. Je suis toujours en train d'écrire un peu dans ma tête.
Mais elles n'ont pas su, pendant que vous y étiez, elles n'ont pas su que vous alliez en faire un livre, alors que vous le saviez dès le départ.
Elles savaient que j'écrivais.
Vous n'avez pas voulu remettre cette distance.
Si, elles savaient que j'écrivais, mais j'avais pas très envie de dire que j'écrivais sur la maison, parce que j'avais pas envie qu'elles se sentent observées et qu'elles se sentent disséquées, entre guillemets, parce que c'était pas non plus ce que je faisais.
Aujourd'hui, vous vous rendez compte si vous avez, si vous aviez surtout besoin de vivre cette expérience pour X ou Y raison, ou si vous aviez surtout besoin de l'écrire?
Non, je crois que j'avais très envie depuis très très longtemps de pénétrer dans ce monde-là, et j'avais très envie d'incarner ce que je pensais que ces femmes incarnaient. C'était vraiment une curiosité personnelle, mais c'était quelque chose de passionnant à écrire à énormément de niveaux.
Qu'est-ce qu'elles incarnent pour vous? Parce que c'est les mots que vous venez d'employer, et qu'on est dans une, avec la littérature aussi quand même, dans une affaire de représentation.
Exactement, et c'est justement la littérature qui m'a donné cette curiosité-là pour la prostitution, pour l'objet maison close et pour ces femmes qui y travaillent. C'est ce qu'elles incarnaient pour moi, c'était la toute-puissance érotique de la femme, sa toute-puissance sexuelle, et c'était ça que moi j'avais envie d'incarner, avec effectivement tout ce que ça suppose de ce qu'on m'a appris aussi. J'avais envie d'être cette créature puissante, qui est capable de mettre un monde à genoux. Mais c'était avec toute la naïveté de quelqu'un qui ne connaît pas le métier non plus. Effectivement, mon rapport au métier a changé, effectivement, avec l'exercice du métier.
Laure Murat, vous comprenez ce lien qu'expose Emma Becker dans son livre entre prostitution et fiction, la prostitution comme une expérience littéraire?
Oui, ça peut l'être.
Je vois qu'il y a sens.
Ça. Oui, bien sûr, ça peut faire sens en tout cas. Je remarque qu'il y a quelques références littéraires dans ce texte, notamment à Maupassant. Et j'ai vu justement un récit assez naturaliste et aussi un traitement finalement, enfin une image, puisque pour utiliser une image du temps, une image assez impressionniste. Au fond, de ce que serait la vie d'une prostituée dans une maison close, qui n'est évidemment, parce qu'il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui à plein de niveaux. La chose, en revanche, que je n'ai pas comprise, c'est quand vous dites que c'est un lieu apolitique. Or, quand vous dites là, par exemple, juste à l'instant, que vous vouliez expérimenter cette toute puissance érotique, vous parlez de rapport de pouvoir.
Oui, mais c'est plutôt le sexe qui, pour moi, est à la base apolitique. Je ne pense pas que la maison close le soit. Mais allez-y, continue, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Non, je vous en prie.
Moi, je veux bien qu'on reparle du politique juste après, qu'on termine sur cette expérience littéraire. Parce qu'effectivement, après, se pose la question à la fois des rapports entre les hommes et les femmes, des représentations de ces femmes, la question aussi du féminisme. Est-ce qu'on peut être prostituée et féministe à la fois? La question du rapport au corps, de cette mécanique du désir que vous décrivez. Mais juste sur cette expérience littéraire, il y a une tradition que vient d'évoquer Laure Murat, dans laquelle vous inscrivez. Vous écrivez « J'ai adoré fréquenter ces filles, j'ai aimé ces hommes, aimé la couleur de ma chair dans la lumière rose et les jeux d'ombre sur mon visage, la sensation d'inventer à l'envi une nouvelle Emma, de nouvelle Justine. J'ai aimé l'impression que rien n'était impossible. » De la Justine de Sade, à qui vous empruntez d'ailleurs le nom, pour vous qualifier, pour vous nommer dans ce livre, Emma Becker à la Nana de Zola, la célèbre cocotte des Rougon-Macquart, la littérature vous a aussi d'abord, à vous, ouvert les portes de la maison close. C'est parce que vous aviez cette expérience littéraire, et vous mettez beaucoup aussi en exergue Louis Calafert, l'auteur de La mécanique des femmes, parce que vous avez lu tous ces livres, que vous aviez envie d'entrer dans une maison close par le biais de la littérature?
Oui, et aussi parce que je perdais pas non plus de vue que c'était des bouquins écrits par des hommes. Donc, c'est-à-dire que ce regard très tendre, très coloré qu'il donne sur la prostitution, sur la maison close, ne sont jamais finalement que des regards de clients qui ignorent la mécanique du métier et ce que vivent les femmes qui pratiquent ce métier-là. J'avais envie de mettre justement ce bagage littéraire, cette expérience du bordel littéraire, en contact avec la réalité du métier et ce que ça me fait à moi en tant que femme. En tant que femme écrivain et en tant que femme tout court.
Alors justement, vous citez des écrivains comme Zola, comme Maupassant, comme Sade. D'ailleurs, je remarque que vous prenez le prénom de Justine quand vous auriez pu prendre celui de Juliette, ce qui aurait conservé ce J qui est compliqué à prononcer pour les Allemands. Juliette, c'est l'exubérante, c'est la femme totalement émancipée. Justine, c'est la victime. Donc ça, j'aimerais peut-être vous avez quelque chose à dire là-dessus. C'est Justine ou les malheurs de la vertu et Juliette ou les prospérités du vice. Donc c'est aussi intéressant comme choix ce Justine là.
Oui, mais ça va peut-être un petit peu vous décevoir parce qu'en réalité, j'ai pris ce nom-là parce que c'était le nom que j'avais pris quand j'avais 18 ans avec une copine. On se faisait peur un peu à traîner sur des sites de petites annonces et on s'était choisi comme nom Justine et Juliette. Et à ce moment-là, j'étais Justine, elle était Juliette et j'ai gardé ce nom-là par fidélité pour cette amie-là. Voilà.
Dans quelle tradition littéraire vous l'inscrivez-vous, Laure Murat, qui est aussi une spécialiste de l'histoire de la littérature et notamment des femmes dans la littérature, ce livre d'Emma Becker?
Eh bien, alors, plutôt que de parler de Maupassant ou de Sade, j'aurais plutôt parlé de... Parce qu'il y a des femmes qui ont écrit déjà là-dessus,
oui, bien
vous
sûr.
Savez très bien, évidemment. C'est comme Griselie d'Israël, par exemple, Nelly Arcand, etc. Donc, il y a une... Et d'ailleurs, je voulais vous demander pourquoi vous n'en parlez pas de ça, justement. Parce que vous avez sûrement un avis là-dessus. Comment vous démarquez de cette littérature-là, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas.
Mais parce qu'en fait, je ne les ai pas lues avant d'avoir fini cette expérience. Je savais qu'elles existaient, mais je les ai lues après. Nelly Arcand, je l'ai eue par exemple il y a un mois. Et c'est vrai qu'on ne parle pas du tout, de la même chose. Mais ne pas les lire pendant que je faisais cette expérience, c'était aussi une façon... J'avais pas envie de me distraire de cette ligne directrice que j'avais, qui était, ma curiosité me vient des hommes, j'ai envie de voir jusqu'où est-ce que ça survit dans cette expérience-là, mon point de vue de femmes, et je les ai lues après, effectivement. Ouais.
On va écouter les mots d'une écrivaine, Catherine Millet, sur la question du style quand on écrit le sexe, quand on parle sexualité en littérature.
J'ai spontanément commencé à écrire et à décrire ces scènes sexuelles exactement comme si j'étais en face de tableaux et chargée de, pour quelqu'un qui ne les a pas sous les yeux, de les décrire, en fait. Voilà, c'est... Et puis il y avait quand même aussi la nécessité, ça j'en étais consciente, de pas décourager le lecteur. C'est-à-dire que si j'avais eu un style où j'aurais beaucoup plus mis de sentiments, de pathos, de sensations plus, ça aurait pu faire écran entre le lecteur et moi, sur un sujet qui est quand même un sujet où là, vraiment chacun je le répète, sa propre sensibilité.
Voilà l'auteur de La vie sexuelle de Catherine M. Catherine Millet, c'était sur France Culture l'an passé. Est-ce qu'on peut écrire sur la prostitution avec style, Laure Murat?
Oh bah oui, bien sûr, on peut écrire surtout avec style, surtout en deux mots ou en un seul d'ailleurs. Bien entendu, pourquoi pas.
Comment vous avez pensé votre écriture, Emma Becker, sur ce livre en particulier, sur ce troisième livre?
Je suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la façon dont elle écrit, mais en tout cas il y a quelque chose qui est sûr, c'est que je voyais pas la différence entre écrire le sexe et écrire la prostitution, parce qu'on fait généralement cette différence entre la prostitution qui est le mauvais sexe et le sexe conjugal, finalement le sexe gratuit qui est censé être le seul sexe valable. Je crois que la différence entre ces deux genres de sexe n'est pas aussi énorme qu'on le pense. Je crois qu'on peut écrire la prostitution comme on écrit un rapport amoureux. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose qui est totalement sans affect. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'affect dans cette espèce de dépouillement, de la friction pour laquelle on paye. J'ai trouvé qu'il y avait justement des grands moments de rencontre humaine.
Le choix des mots bruts, parfois, vous dites que vous assumez totalement, par exemple, l'emploi du mot pute ou putain plutôt que prostituée, parce que c'est comme ça qu'on dit aussi.
Parce que c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, et parce que je trouve que le mot pute a été vidé de sa substance et qu'il n'est plus du tout employé dans son sens propre. Et je crois qu'il faut réclamer ce mot-là. Enfin, en tout cas, moi, c'était une prise de position de ma part, parce que je trouve le terme de prostituée très, très passif et très judéo-chrétien. Et que j'aime bien le fait que tout le monde, enfin pas que tout le monde, mais que le mot pute claque et choque. Et je pense que c'est une bonne chose de le remettre dans son juste contexte. Quant au langage cru, je sais pas, est-ce que c'est peut-être parce que je suis une femme qu'on me pose toujours la question. Je sens pas le besoin de me justifier sur les mots que j'emploie. Et exactement comme disait Catherine Millet, je trouve que les mots médicaux, peut-être pour décrire le sexe, mettent une distance entre le lecteur et l'auteur. Et moi, j'ai envie qu'on se sente proche de moi quand j'écris quelque chose.
Comment ça a changé votre rapport à votre corps, Emma Becker, cette expérience et l'écriture de ce livre?
Après, c'est mon expérience à moi, mais moi, ça a soigné énormément de choses en moi, la proximité de ces femmes, pas le métier, mais la proximité des femmes et leur ouverture d'esprit. Et je me sens beaucoup plus en paix avec mon corps, mais ce qui ne veut pas dire que pendant 2 ans et demi, tout a toujours été très facile. Il y avait effectivement des moments très difficiles où on a la sensation de se perdre un peu soi-même, mais j'ai eu l'impression de me retrouver et de me retrouver beaucoup plus profondément qu'avant cette expérience-là.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus facile?
Le contexte de maison close implique quand même un certain nombre de clients par jour. C'est pas le même boulot qu'une indépendante qui peut-être va avoir 1 ou 2 ou 3 clients par semaine. Je crois qu'il est plus difficile de rester entière pour chacun de ses clients quand on en a 5 ou 6 par jour. Et il y a un ras-le-bol de l'homme et du sexe et de la sensualité et du désir qui s'installe très rapidement et qui, moi, effectivement, m'a rendue un peu malheureuse parce que c'est ce qui me fait me lever le matin, la possibilité d'être séduite, la possibilité de désirer l'envie des hommes et des femmes, et de ne plus l'avoir, c'était ça qui me rendait un peu triste. Ouais.
Il y a entre les lignes d'Emma Becker, Laure Murat, une forme de déculpabilisation à être femme, à assumer aussi son désir, revenir sur cette honte, cet opprobre qui souvent pèse sur la sexualité féminine, la libérer un peu de toutes ces représentations, ces attentes sociales. C'est aussi le rôle de la littérature aujourd'hui de faire parler une sexualité autrement, exposer le corps des femmes autrement.
Oui, et puis d'être une femme et de parler autrement de ces choses-là. Certainement, il y a une je ne sais pas si c'est la fonction de la littérature, mais elle peut servir à ça très, très efficacement. Vous parlez de désir, mais en même temps, j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait surtout du désir des hommes et qu'à un certain moment du livre, on a l'impression que la fonction des femmes, d'ailleurs je crois que vous le dites dans un entretien, je ne crois pas que vous le dites nommément dans le livre, mais c'est ça aussi que j'ai ressenti, que la fonction des femmes serait de donner du plaisir aux hommes.
Et c'est ce qu'on a voulu pour nous. Oui, c'est pas ce que je pense, mais je pense que la situation est aussi comme ça, pour le moment. Qu'elle l'a été pendant très longtemps et que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire aussi.
Et vous avez l'air de dire aussi, en même temps, parce qu'il y a plusieurs courants dans le livre, hein, il y a à la fois quelque chose, et d'ailleurs vous le dites à un moment donné, que vous voulez embellir un petit peu cette situation. Au moment où vous rencontrez ce client qui vous bat comme plâtre, et c'est une scène quand même très très dure. Et vous dites à ce moment-là que vous vous rendez compte que toutes ces pages sont des sortes de mensonges, où vous essayez d'embellir la vie des putes, et qu'en réalité, voilà, on est une pute, c'est ça, c'est celle qui se fait battre et qui se fait payer pour ça. Donc évidemment, on arrive à une sorte d'extrémité, et j'aurais aimé que vous, enfin ça c'est moi hein, bien sûr, mais j'aurais aimé que vous creusiez un petit peu plus là-dessus. Je crois que vous avez, il me semble, hein, en tant que lectrice lambda, que vous avez été guidée par un projet qui était celui de déculpabilisation, d'embellissement, c'est vous qui le dites, mais en tout cas d'édulcorer un tout petit peu les choses dures dont évidemment beaucoup ont parlé avant vous, et que l'idée était aussi beaucoup de reprendre le pouvoir. Alors là, je dirais presque dans la lignée de Virginie Despentes, qui elle aussi a connu l'expérience de la prostitution, et qui dit que c'est elle qui reprend le pouvoir dans ces conditions. Alors, ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que, au final, j'ai quand même le sentiment que c'est le désir de l'homme qu'il faut satisfaire, qu'ils sont des enfants à consoler, que, etc., etc. Et qu'il y a dans le rapport homme-femme, tel qu'en tout cas le féminisme et tout simplement la vie nous l'a appris, à quelque chose là d'un petit peu dévoyé, à mon avis.
Mais moi, je ne fais que constater que finalement, dans ce contexte-là, oui, effectivement, les hommes sont des enfants, oui, ils ont des caprices à satisfaire, et c'est un peu quand même la base du boulot que moi j'ai pratiqué pendant 2 ans. Après, quand vous parlez ou que je parle d'ailleurs d'embellissement, il faut voir aussi le contexte, voilà, le contexte de la scène où effectivement, je me rends compte que peut-être je me suis complètement fourvoyée et qu'à ce moment-là, où effectivement, je me fais taper dessus, je me dis mais peut-être qu'effectivement, le boulot c'est ça. Après, le boulot, c'est pas exactement ça, mais je crois que ce qu'on peut confondre aussi avec l'embellissement, c'est cette volonté que j'ai de montrer les putes, non pas comme des victimes, mais comme des femmes qui font un boulot, et de temps à autre, on a des jours pourris quand on fait ce boulot-là, de temps à autre, on a des bons jours, on a des clients qui sont des salauds, et on a des clients qui sont très bien. J'avais envie, tout simplement, de dédramatiser la situation et de montrer que les putes sont des ouvrières, parce que je pense que c'est un statut dont on les ampute généralement. Après, la notion d'embellissement, oui, elle existe, parce que c'est la charge affective du souvenir et de l'affection que j'ai eue pour cet endroit, et de cette sensation que j'avais de trouver une famille. Alors oui, pourquoi est-ce que j'ai eu la sensation de me trouver une famille ? Ça, c'est une autre question intéressante que j'aurais pu creuser, c'est sûr. Je pourrais encore être en train de l'écrire, ce livre-là. Il y avait tellement de choses à dire. Mais... je ne cherche pas à montrer les choses plus belles qu'elles le sont, c'est juste que vous savez très bien comment c'est le souvenir. Au bout d'un moment, il y a quand même toute une part d'objectivité aussi qui s'envole, et j'ai beaucoup aimé cet endroit. Et voilà, et c'est comme ça aussi que j'avais envie de le décrire, mais je ne crois pas non plus faire l'impasse sur les moments compliqués que j'ai pu...
Non, d'ailleurs c'est à l'occasion d'une scène très pénible, dont a priori vous ne cachez rien, en tout cas vous la décrivez. C'est-à-dire que j'ai senti tout le temps au cours du livre une sorte de... comme s'il y avait deux courants contraires, c'est pas une critique, c'est un désir d'authenticité qui était un petit peu tordu par la volonté justement de dévictimiser, de déculpabiliser, etc. Ce qui évidemment... tord le projet d'authenticité, puisque vous avez à la fois un projet dont d'embellissement, c'est un grand mot, mais en tout cas de dédramatiser tout ça, et en même temps d'être au plus près de ces femmes et de ces hommes.
Il y a peut-être une expérience qui est double aussi.
Oui, mais tout à fait. Et puis, il faut voir aussi que ce métier, je l'ai pratiqué, certes, dans un pays où c'est légal, mais je veux dire, avec mon bagage de française. C'est-à-dire que j'arrive dans ce pays, dans ce bordel-là, en me disant que c'est pas un métier comme les autres, et qui sont ces femmes, c'est forcément des femmes particulières. Enfin, j'ai tous ces préjugés aussi qui me viennent de mon éducation dans ce pays-là. Et il y a quand même un stigmate qui pèse sur les prostituées, même en Allemagne où c'est légal. Et cette volonté d'embellissement, entre guillemets, est peut-être une volonté de réhabilitation de ma part. Il y a toujours cette nécessité de se justifier quand on fait ce boulot. Et même dans un cadre légal, toujours. Et peut-être cet optimisme que j'ai, c'est aussi parce que j'avais besoin, moi, de cet optimisme-là et de me dire que je faisais un boulot qui était utile et que j'avais autant le droit d'être une citoyenne dans ce pays que n'importe qui d'autre.
Et ce stigmate, il va vous coller à la peau encore quelques années, Emma Becker. Est-ce que vous étiez prête, en entrant dans cette maison, à le porter pour cet habit-là, pour les années à suivre ?
Bah, écoutez, moi, j'ai toujours été fière du métier que je faisais quand je le faisais. Il y avait des moments qui étaient difficiles, mais j'étais fière quand même. Et après, quand j'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes, vers la fin de mon expérience, c'est vraiment ce texte-là qui m'a donné l'aplomb, qui m'a manqué plein de fois quand j'écrivais ce livre-là. Il y avait vraiment des moments où j'arrêtais d'écrire parce que j'avais peur de la réception, j'avais peur de ce que mes parents allaient penser. Et c'est Despentes qui m'a vraiment donné le courage d'aller jusqu'au bout.
Discussion entre l'écrivaine Emma Becker, l'auteur de La Maison, publiée chez Flammarion, Notre Prix, France Culture, Télérama des étudiants, et l'historienne Laure Murat, France Culture. Pour l'heure, il est 13h18.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes. Je ne peux pas relire mes livres sans m'apercevoir que je n'ai jamais écrit que sur les femmes, sur le fait d'en être une, et sur les milliers de formes que cela prend. Et ce sera sans doute l'œuvre de ma vie, me tuer à vouloir décrire ce phénomène, accepter l'impression d'avoir en quelques centaines de pages avancé d'un demi-centimètre. On évoquait la figure de Griseïdis Réal, artiste, écrivaine, prostituée, suisse. Elle a raconté sa vie dans une autobiographie, « Le noir est une couleur », cette expérience de la prostitution et ce droit des prostituées pour lequel elle s'est battue toute sa vie.
Il y a des hommes qui sont terriblement blessés dans les clients. Il ne faut pas croire qu'ils vont là pour le plaisir. En réalité, ils y vont presque comme à la mort. Pour eux, c'est presque une souffrance d'aller faire l'amour. Ils n'ont même pas d'autre moyen d'aller faire l'amour qu'en payant. Et ça les fait doublement souffrir, ça les humilie encore davantage, quoi. Il faut comprendre ça. Moi, je ne sais pas. Moi, il me semble que plus on vit, plus on doit s'élargir, plus on doit comprendre que... il y a des problèmes et qu'en fait, il n'y a pas de véritable criminalité, il n'y a que des souffrances. Si on arrive à comprendre ces souffrances et puis à les soulager tant soit peu, ben, le monde va mieux, franchement. Tant du côté des femmes que du côté des hommes. Et ce que j'ai vu, moi, en connaissant toutes ces merveilleuses putains de Paris, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient un cœur qui les dépassait, quoi. Un cœur qui n'a plus de limite et une affectivité qui n'a pas de limite. Alors, elles reportent ça sur tout, hein. Sur leurs copains, leurs copines, leurs enfants, leurs chiens, leurs plantes, enfin tout. Tout est prétexte à aimer et à se sentir entouré.
Grise Elidis, réel extrait de Prostitution, le film de Jean-François Davy sorti en 76. Vous parlez d'ailleurs et vous les décrivez comme des êtres solitaires, c'est des solitudes réunies dans une même maison, mais solidaires. Vous insistez beaucoup sur cette dimension sociale et affective de cette expérience que vous avez vécue. Ceci n'est pas une apologie de la prostitution, si c'est une apologie, c'est celle de la maison, celle des femmes qui y travaillent, celle de la bienveillance. On n'écrit pas assez de livres sur les gens, sur le soin que les gens prennent de leurs semblables, dites-vous. Emma Becker, cette dimension-là, on en parle assez peu parce qu'on évoque souvent la misère, la souffrance de ces femmes, peu l'échange qui se passe aussi entre elles hein, dans cette situation.
Oui, et puis moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup déjà surprise et étreinte de voir à quel point quand les hommes ne sont plus là pour séparer les femmes, pour les faire se battre entre elles, finalement il y a cette solidarité absolument immense des femmes entre elles, cette compréhension. Et effectivement, paradoxalement, c'est un métier où vous êtes payé pour être désirable, donc c'est plus comme si c'était une espèce de souci d'ego, de plaire aux hommes, c'est un fait, c'est là. Et j'ai trouvé une espèce de sororité des femmes entre elles, et c'était ça qui me faisait revenir, c'était ça qui me manquait, c'était pas les clients, parce que les clients on peut les rencontrer partout, mais c'était elles, c'était leur proximité qui me, et puis leur humour, et puis finalement une féminité dépouillée de tous les masques qu'on est obligé de porter constamment. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans cette sobriété qui était à la fois très, très maternelle, très, très sororale, enfin, qui m'a, moi, soignée, enfin, qui a soigné des choses en moi que je pourrais pas vous décrire, mais d'une manière ou d'une autre, ça m'a soignée.
Une sororité, dit Emma Becker, Laure Murat, et peut-être aussi une forme d'égalité, ce qu'on lit entre ces lignes, par la situation, entre les hommes et les femmes. Justement, sur la place de la femme comme victime, je trouve qu'il y a aussi des moments dans ce livre où on a le sentiment que les femmes reprennent aussi le pouvoir de cette situation. Elles sont dans un espace où elles sont quand même chez elles, hein.
Elles sont chez elles, mais moi personnellement, je n'ai pas été convaincue de ça pour des raisons très très simples, à savoir que un rapport tarifé n'est pas un rapport égalitaire. Et quand on parle de soulager la souffrance des hommes, il faudrait parler de la souffrance des femmes et de leur désir. Oui, où est le désir des femmes? Et alors, je trouve que le livre, en quelque sorte, est sauvé par ce passage. Alors maintenant, je me rappelle plus de son prénom, mais d'une des putes qui, tout d'un coup, tombe amoureuse d'un garçon.
Il dit.
Voilà. Ouais. Et qu'elle va dans un parc la nuit. Et je trouve que ce passage-là, on se dit, ah, enfin. Enfin, il y a du désir. Enfin, il y a du plaisir. Enfin, on parle des femmes. Enfin, oui. On parle de la sexualité des femmes.
Je vois ce que vous voulez dire.
Et là, c'est un rapport, justement, qui n'est pas de prostitution. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de plaisir dans la prostitution, ni qu'il ne peut pas y avoir de prostitution dans le mariage, bien au contraire, etc. etc. Donc ça, ce n'est pas ces catégories-là. Je parle du livre.
Oui.
Et je me dis, bon, là, on est dans le sujet. En quelque sorte.
Et vous savez, c'est mon désir après que j'explorais, avec lequel je faisais une expérience. Effectivement, là, on parle plus de désir des hommes. Mais est-il besoin de parler du désir des femmes quand ces femmes-là sont en train de travailler? Elles sont pas non plus là pour. Elles ne sont pas en train de s'attendre à rencontrer l'homme de leur vie ou vraiment à désirer leur client. Mais il y a des moments de désir entre une pute et son client, voilà, que je raconte aussi. Mais effectivement, la spontanéité du désir des femmes, elle ressort dans ce passage que vous citez. C'est peut-être le seul passage qui parle réellement de sexe dans ce livre, hein, je
voilà.
Crois. Mais c'est aussi une différente expérience sur ce que je considère être mon désir, ce qu'on m'a appris de mon désir, ce que j'essaie de désapprendre de ce qu'on m'a appris de mon désir. Enfin, c'était vraiment une expérience sur ma propre sexualité et une tentative de me la réapproprier, certes en passant par le désir des hommes, parce que ça a toujours été mon esclavage.
Le livre a provoqué des réactions très virulentes chez certaines féministes, Oser le féminisme, qui vous a barré la route lors d'une de votre venue annoncée à l'université de Grenoble-Alpes, avec un texte très dur sur votre livre, qualifié d'ouvrage qui glamourise et banalise l'achat des femmes et qui légitime les violences masculines, qui encense la prostitution et le système prostitueur, auprès du jeune public. Hein. Il y avait toutes ces critiques-là, vous avez été critiquée par les unes, adoubée par les autres, et notamment des hommes en presse, dans la presse écrite. Vous dites que c'est à chaque fois pour des mauvaises raisons d'un côté comme de l'autre, et c'est là où on en revient à ce que vous évoquez tout à l'heure, Laure Murat, cette dimension politique ou apolitique du sujet tel que vous l'entendez. Vous voulez nous expliquer en quoi pour vous, vous avez dépolitisé la question d'une certaine manière quand vous l'avez traité. Mais,
parce que moi j'ai pas la sensation de parler de prostitution dans un sens large, mais j'ai la sensation, enfin en tout cas c'était mon projet à la base, d'écrire sur cet endroit-là qui est un endroit très particulier, et non pas d'écrire sur toutes les putes, mais d'écrire sur moi en tant que pute, et sur cette expérience que je fais, sur ce métier que je décide de pratiquer pendant 2 ans. Quand on parle de soi, quand on parle de ses affects, de sa propre sexualité, je vois pas où est-ce que le politique, enfin je vois pas où se trouve la place du politique. Je suis pas en train de faire un essai sur la prostitution, je suis pas en train d'essayer de convaincre quoi que ce soit, je parle de moi, et je crois qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir absolument faire de tout un sujet de société et un sujet politique. Quand les filles du collectif Oser le féminisme n'ont manifestement pas lu le livre, mais ont un avis très tranché sur la question, et c'est ça qui me gêne, c'est le fait que tout le monde s'arroge une opinion sur la prostitution et sur la réalité de la prostitution sans en connaître rien du tout, sans même avoir envie de lire un livre qui est un regard partial sur la prostitution certes, mais qui donne quand même un input sur la question.
Alors être féministe et pro prostitution, les mots de Virginie Despentes, l'auteur de King Kong Théorie.
Et notamment cette idée qu'on pouvait être féministe et pro légalisation de la prostitution, c'était effectivement pas un point de vue français très représenté, quoi. C'est-à-dire si on est pour la prostitution, on est pour que les prostituées travaillent dans de meilleures conditions, mais évidemment on est aussi pour que le client soit reçu dans de meilleures conditions. On se dit que c'est un travail qui a des techniques, qui a des aptitudes, qui sont diverses. Je crois que les qualités d'une prostituée, elles peuvent être très diverses, mais ça existe. Pouvoir le faire mieux qu'une autre, ça existe. On peut être meilleur écrivain qu'un autre, ou meilleur prostituée qu'une autre. De la même façon, d'ailleurs, ça changera des... Ça dépend des points de vue, mais effectivement, la criminalisation de la sexualité des hommes et la honte projetée sur la sexualité des femmes, c'est difficile à comprendre Pourquoi est-ce qu'on a toutes les sociétés, on est tombé d'accord là-dessus, toutes celles qui sont encore debout, quoi, en tout cas, ça veut dire que toutes les autres ont été détruites par les plus violentes. Et les plus violentes, donc pour être au plus violent, apparemment, il faut être dans quelque chose de très très délicat par rapport au sexe.
C'est parce qu'il y a eu honte, c'est parce qu'il y a eu depuis toujours criminalisation, Laure Murat, qu'il est impossible pour vous de dépolitiser cette question, de dépolitiser le corps des femmes.
Oui, pour moi, c'est impossible depuis très longtemps, depuis le privé et politique, depuis tout ça. C'est une culture aussi, bien sûr, mais c'est aussi, enfin, c'est une réflexion sur la contrainte des corps, sur la circulation de l'argent, sur les problèmes de domination, tout ça qui existe d'ailleurs. Et ça n'est pas parce que c'est votre choix de dire ça, et c'est un choix respectable. Mais il est évident que ces rapports-là sont politiques. Je pense que Virginie Despentes serait tout à fait d'accord avec ça. Et je crois que c'est même, je dirais presque l'inverse, c'est-à-dire que plus vous descendez dans l'intime, plus vous élargissez le domaine du politique, puisque vous rendez compte que on est aussi agi, hein, au même titre que on agit. Hein, oui, je ne suis pas du tout en train de dire que on est seulement dominé et seulement mécanisé. Mais quand d'ailleurs vous parlez du désir des femmes et du plaisir des prostituées, vous dites qu'elles s'anesthésient en quelque sorte. Elles anesthésient leur corps pour pouvoir y arriver. Ça aussi, c'est un problème important.
Très vite, Emma Becker, le dernier mot.
Oui, non, mais je dis effectivement que le métier implique une espèce de séparation du corps et de l'esprit, mais qui n'est pas très différente de la séparation du corps et de l'esprit qu'on vit quand on est une femme mariée depuis 40 ans, j'imagine. Je pense juste que la différence entre une pute et une femme, elle n'existe pas. Et je crois que le sexe tel qu'on le pratique, moi j'aime croire que quand on fait l'amour, il n'y a pas de question de politique, mais vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on a intériorisé? Qu'est-ce qui nous appartient dans nos fantasmes? Qu'est-ce qu'on nous a appris? Voilà, ça vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup dans ce livre, parce que le livre est très... parce que la maison est très hétérocentrée, parce que voilà, il n'y a pas tellement ces questionnements-là, mais ça implique, oui, ça me donne effectivement plein d'autres pistes de réflexion.
Merci pour cette belle discussion, mesdames. Merci beaucoup, Laure Murat. Une révolution sexuelle, c'est le titre de votre dernier ouvrage, avec un point d'interrogation, paru chez Stock en septembre 2018. Merci à vous, Emma Becker, lauréate du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Ce sera donc vous pour cette nouvelle édition, le prix qui vous sera remis demain pour ce livre La Maison, publié chez Flammarion. Émission programmée par Oriane Delacroix et Bruno Barada, coordonnée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Vuillard et de Marceau Vassy. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard, avec Adèle Cagla, et à la vidéo Jean-Guy Lamèche. Bel après-midi à tous sur France Culture.